Bonjour à tous, bienvenue sur lescoursjulien.com pour un nouveau commentaire audio d'un passage de Candide du chapitre 18, l'Eldorado, le passage des moutons volants. Alors, ayez bien le texte en tête, lisez-le avant et ayez-le en face de vous. Débutons. Candide paraît en 1759. Cet ouvrage fait partie de la lignée des contes philosophiques que Voltaire écrit comme Micromégas ou Zadig. À travers des histoires irréelles, l'auteur nous livre une vision sur son monde et son époque. La forme de l'apologue imaginaire lui permet d'éviter une censure pointilleuse et lui permet de plaire au lecteur afin de l'instruire par ses réflexions. Candide conte l'histoire du héros éponyme, qui s'appelle Candide aussi, comme le titre de l'œuvre. Il traverse de multiples épreuves sur plusieurs continents avant de retrouver son amoureuse Cunégonde et la tranquillité. Entre-temps, il s'est fait une idée plus précise du monde et des hommes en découvrant des civilisations différentes et des comportements parfois trop semblables, comme la méchanceté, la malhonnêteté, le fanatisme, l'égoïsme ou la cupidité. Candide est aussi un roman d'apprentissage qui nous montre un innocent qui découvre les bassesses humaines. Le passage de l'Eldorado se situe au milieu des aventures de Candide et constitue une pause dans ses mésaventures, puisqu'il trouve enfin, accompagné de son ami Cacambo, un endroit pacifique et des gens chaleureux. Après être entrés dans le pays, les deux compères sont invités à se rendre au palais royal. C'est l'occasion de décrire le palais et la ville d'Eldorado. Quelle est l'intention de Voltaire dans cette description utopique? Que cherche-t-il réellement à décrire? Dans un premier temps, nous constaterons le caractère imaginaire de cette description avant de montrer que cette utopie est en fait au service d'une critique de la civilisation occidentale. Alors, débutons par l'univers merveilleux. Il se remarque déjà par des éléments irréels imaginaires. Au début du passage, nous avons des moutons volants, les 6 moutons volaient. Ce caractère d'ailleurs est un peu comique, puisqu'il tire un carrosse, comme dit le texte, le transport de la noblesse. Or, le mouton est un animal de ferme, moins noble évidemment que le cheval. La durée de leur trajet apporte encore un élément fantastique pour l'époque. Rapide, en moins de 4 heures. L'expression souligne la rapidité, et en même temps cela souligne aussi la taille gigantesque de la ville. Enfin, la matière inconnue du portail, il est impossible d'exprimer quelle en était la matière, et nous avons aussi l'image insolite d'une fontaine, comme les fontaines d'eau de rose. À cela s'ajoute la démesure. La taille gigantesque de la ville est mise en avant, et du palais aussi qui est imaginé avec celle du portail. Les bâtiments et monuments sont immenses aussi. Édifices publics élevés jusqu'aux nues. Les nues, c'est le ciel, évidemment. Grande place pavée. Les hyperboles chiffrées et précises abondent. 220 pieds de haut et 200 de large. 20 belles filles, 1000 musiciens, 1000 colonnes, 2000 pas. Tout cela donne une impression de réalité, mais aussi, évidemment, de démesure incroyable. Enfin, la multiplicité des personnages et des bâtiments donne le tournis. Officiers, officières, musiciens, grand officier, le roi, les édifices publics, les fontaines d'eau, les liqueurs de canne à sucre. Bref, c'est une corne d'abondance de bâtiments, de personnages et de richesses. Enfin, nous trouvons l'univers traditionnel du conte qui a rapport au merveilleux. La présence de clichés du conte comme le carrosse ou le palais constitue des lieux classiques, hein, des contes évidemment. Le personnage du roi est chaleureux et accessible, nous le voyons à la fin du deuxième paragraphe. L'exotisme dû à la localisation en Amérique du Sud et à Cacambo, qui est un prénom exotique, ainsi qu'à la légende de l'Eldorado, la fameuse cité d'or, sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries, nous fait voyager dans un univers légendaire, exotique, très loin de l'Europe de l'époque. Ce caractère merveilleux et utopique ne doit pas nous faire oublier que Voltaire l'utilise pour critiquer derrière. Ainsi, maintenant, regardons l'utopie au service de la critique. Déjà, la ville parfaite. Une cour resplendissante, avec des musiciens, des filles, des bains, des robes magnifiques, d'où émane une grande douceur de vivre. La figure royale est aimable et accessible, contrairement, évidemment, au roi de l'époque. Il y a une forme d'égalité entre les hommes et les femmes, avec le parallélisme officier-officière. Les femmes occupent des places généralement dévolues aux hommes à l'époque. Filles de la garde, elles sont donc des soldats. Cette société est pacifiste, sans violence. Il s'informa s'il y avait des prisons, on lui dit que non. On a l'impression d'être dans un paradis. Évidemment, c'est une référence des Lumières à l'humanisme de Thomas More et à son livre Utopia, Utopie en français. La référence est directe à Utopia de Thomas More. Cet humaniste anglais du XVIe siècle, ami d'Erasme et chancelier du roi d'Angleterre Henri VIII, constitue à n'en pas douter, pour Voltaire, un modèle, d'autant plus qu'il a été plusieurs années en Angleterre. La place centrale des bâtiments publics sert l'intérêt général. Édifices publics, marchés, fontaines, tout est facilement accessible pour tout le monde. La ville qui sent bon, odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle, avec un accès facile à l'eau potable. Les luxes dans des villes à l'époque sans hygiène où les ordures se jetaient dans la rue et les maladies se véhiculaient par une eau sale sont présentes dans la ville d'Eldorado. Enfin, la ville voit la connaissance, le principe central des Lumières et de l'humanisme d'ailleurs, avec le Palais des Sciences, nouveauté aussi pour l'époque, qui n'est pas habitué comme aujourd'hui aux musées, aux bibliothèques ou évidemment aux cités des sciences comme à la Villette. Alors c'est évidemment une critique de la société européenne. Dans le deuxième paragraphe, la satire de la manière de saluer les rois de l'époque se remarque. Si on se jetait à genoux ou ventre à terre, si on léchait la poussière de la salle, cette interrogation de Cacambo montre bien l'habitude qu'on pouvait avoir en Europe à être très déférent, à être comme un tapis vis-à-vis des rois. Le roi de l'Eldorado, au contraire, se présente avec une grande proximité et cela souligne la distance entre le roi européen et son peuple. Le roi qui doit être le père du peuple, qu'il ne voit pourtant jamais et qu'il traite en inférieur, c'est contraire à ce que Candide observe dans cette ville utopique. L'absence de tribunal, de parlement et de prison dénonce aussi l'arbitraire et l'injustice souvent exercées en Europe. Et en France, notamment, justice ou injustice dont Voltaire fut à plusieurs reprises victime. On voit encore une critique contre l'obscurantisme établie par l'Église avec l'évocation de Palais des Sciences, alors qu'en Europe, l'Église freine les découvertes quand elles contredisent ses règles et ses dogmes. Enfin, la mise en avant de la propriété de la ville d'Eldorado contraste évidemment avec la saleté des villes européennes et vient renforcer l'idée que la civilisation européenne n'est peut-être pas supérieure aux civilisations d'Amérique du Sud. Ce texte est de lumière, met en avant la science, un gouvernement juste et bon, et une ouverture et une tolérance vis-à-vis du reste du monde, contrairement à ce qu'il se passe en Europe à cette époque. Voltaire, en définitive, construit un décor imaginaire en puisant dans l'univers du conte et de la légende de l'Eldorado, le fantasme de la cité d'or qui abriterait toutes les richesses. Par cette utopie, l'auteur ne s'écarte pourtant pas de sa philosophie et dénonce par contraste, par miroir, la société européenne, ses rois distants, son église intolérante et ses villes impropres et insalubres. Son hommage à Thomas More est là pour rappeler que depuis le temps de l'humanisme, époque de la Renaissance du XVe au XVIe siècle, les cités européennes n'ont pas tellement changé et que le progrès social, architectural ou scientifique n'est toujours pas une valeur mise en avant du temps de Voltaire, donc au XVIIIe siècle. Comme ses collègues des Lumières, le philosophe a ici recours à l'utopie pour mieux souligner les manques de la société de son temps. Diderot, notamment, dans le supplément au voyage de Bougainville, agira de même. De plus, dans Candide, le lecteur peut noter une différence importante dans l'accueil du héros à Lisbonne et en Eldorado. La supériorité européenne paraît dès lors très relative. Je vous remercie pour votre écoute sur lescoursjulien.com et vous dis à bientôt. Au revoir.